De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Mais enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben, je vous écoute, parler, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, nous avons renoncé à voir le 50 nuances degrés pour ados, à savoir After, mais on a vu bien d'autres choses, naviguant entre horreur, le drame social, et puis aussi le conte et la comédie.
Oui, Marine. Moi je vais vous parler du nouveau film de Anne Fontaine, Blanche comme neige, qui est donc une réécriture du mythe de Blanche-Neige.
Et puis toi Manu, c'était plutôt l'horreur.
Plutôt l'horreur avec La Malédiction de la Dame Blanche, premier film de Michael Chavez. Et puis je vous parlerai de Alpha, The Right to Kill de Briente Mendoza, entre un drame social et le polar aussi.
Et puis donc Blanche comme neige, La Malédiction de la Dame Blanche, il y a un point commun, c'est le mot blanche. Eh bien ça nous donnera l'occasion de jouer un blind test. Il faudra écouter 5 extraits de films et deviner eh bien, des titres de films avec blanche dans la distribution française, parce que c'est pas tout le temps le cas, enfin dans la version originale, hein, voilà. En tout cas, ça, ce sera la partie blind test de cette émission. Il y aura aussi une interview, celle de Fernando Solanas, pour le documentaire Le Grain et l'Ivraie. Et puis, je vous parlerai de Seul à mon mariage. Ça, c'est un film de fiction d'une fille qui est passée du documentaire à la fiction. C'est Marta Bergman, qui n'a rien à voir avec le réalisateur suédois. Anne Fontaine revisite le conte de Blanche-Neige avec Lou Delage. L'absence des vrais nains se fait cruellement sentir, ce qui n'empêche pas le film d'être simplet. C'est ce qu'a déclaré le bon Éric Neuhoff du Figaro.
Ça ne m'étonne pas de lui, bizarrement.
Eh ben, tu vas nous en parler.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Tu es comme ma fille. Tu es jeune, tu es belle.
Moi, je n'avais qu'un amour et tu me l'as pris.
Il faut qu'elle disparaisse.
Blanche comme neige de Anne Fontaine est une réécriture moderne donc du conte de Blanche-Neige, dans lequel la réalisatrice questionne une fois de plus le désir féminin, l'une des pierres angulaires de sa filmographie. Dans Nathalie, elle explorait les affres de la jalousie à travers le personnage de prostituée incarné par Emmanuelle Béart. Dans Perfect Mother, elle mettait en scène des relations amoureuses à la limite de l'inceste. Dans La fille de Monaco, elle offrait son premier rôle à Louise Bourgoin et filmait un triangle amoureux destructeur autour d'une femme légère et fière de l'être. Et l'un de ses derniers films, Gemma Bovary, était déjà une réécriture d'un écrit célèbre, Madame Bovary. C'est donc au conte de Blanche-Neige, initialement écrit par les frères Grimm, qu'elle s'attaque en transposant l'action de nos jours à Grenoble. Et d'ailleurs, très intéressant de constater que le cinéma actuel se réapproprie ce mythe de Blanche-Neige depuis quelques temps, depuis environ une dizaine d'années, pour en faire eh bien, des films plus ou moins ouvertement féministes. En 10 ans, on a eu eh bien, environ 4 versions sorties en France, du moins progressistes, de Blanche-Neige. Bianca Nieves, une version espagnole, baroque, en noir et blanc, avec une Blanche-Neige Torera. Blanche-Neige et le chasseur, qui en faisait une princesse guerrière. Et même une version Disney un peu rock'n'roll, qui se moquait notamment du mythe du prince charmant, réduit ici un top modèle pas très futé. Alors Anne Fontaine a gardé la trame de départ. Blanche-Neige s'appelle Claire, interprétée par Lou Delage. Elle est une jeune femme mélancolique qui s'ennuie dans l'institut de beauté de sa belle-mère, incarnée par Isabelle Huppert, dont c'est déjà le 47e film, je pense, en 2019. Cette dernière, persuadée qu'elle cherche à charmer son amant, tente de la faire tuer. Mais Claire trouve refuge dans un village de montagne, chez deux jumeaux qui cohabitent avec un musicien un peu neurasthénique. Et très vite, son charme va faire tourner la tête des hommes du village.
Du ciel, une apparition.
Du calme, Charles, du calme.
Vous savez ce que c'est que le coup de foudre?
Vous êtes rentré par où?
Je sais pas.
Ah bah j'aime ça, moi. Parce que j'aime les gens qui savent pas, parce qu'aujourd'hui tout le monde sait tout avec Google.
Vous savez pas qui je suis.
Vous avez quelque chose. Une aura.
En quelques jours, j'ai eu 2 sublimes apparitions.
2 ? Je vais peut-être rester ici quelques jours de plus.
Mais frappez mon sang !
Avant, je savais même pas que j'avais des désirs, et maintenant j'ai envie de les vivre. C'est mal ?
Alors on s'est ici débarrassé du principal, existe donc le prince charmant. En effet, il n'y a pas de nains, les sept nains sont en fait les sept amants plus ou moins platoniques au contact desquels l'héroïne va découvrir sa sexualité et devenir une femme libérée. Alors on retrouve notamment autour d'elle Damien Bonnard, Vincent Macaigne, Jonathan Cohen, Benoît Poulvorde, et la pomme empoisonnée est remplacée par un verre de rhum empoisonné parce que on est en 2019. Le film plaide donc tout en douceur pour l'émancipation sexuelle de la femme, sans être trop vindicatif, on reste quand même dans la fable, on n'est pas dans le pamphlet féministe façon quiconque théorie. D'ailleurs, le film fait le choix de rester dans une esthétique de conte de fées avec une photographie très vaporeuse et des décors bucoliques assez somptueux. Blanche comme neige fait plusieurs fois référence à la filmographie de Brigitte Bardot, au mépris, à Dieu créé la femme, à travers certaines scènes, mais également à travers la coiffure, les vêtements, de l'eau de l'âge. Et finalement, eh bien, ces références soulignent une réalité assez triste et qu'en un demi-siècle, rien n'a vraiment changé. Hein. Les femmes libres sont toujours autant incomprises. Dans le film, le personnage de Blanche-Neige, donc alias Claire, est très intelligemment écrit. Ce n'est ni une fille perdue qui couche avec tous les hommes qu'elle rencontre, ni une méchante nymphomane, juste une femme qui découvre ses désirs et décide de les vivre pleinement. Et dans le cinéma français, eh bien, les personnages de jeunes séductrices sont toujours soit des ingénues qui n'ont pas conscience de leur pouvoir de séduction, soit des névrosées venues pour détruire les hommes. Et ça fait du bien de voir un personnage féminin fragile, fort à la fois, qui sorte un peu de ces catégories préétablies. Blanche comme neige, donc c'est un film eh bien, plutôt moderne, même très moderne, rafraîchissant, drôle, léger mais pas futile, n'en déplaise à Eric Neuhoff. Et ça fait plutôt du bien en ce début de printemps. Voilà.
Voilà, et c'est garanti sans main. Elle apparaît parfois à ceux qui ont beaucoup d'imagination, une attirance pour les stupéfiants ou la boisson. La Dame Blanche est à nouveau l'objet d'une représentation cinématographique et on va se demander si ça fait peur, si c'est bien adapté.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
Oui, oui, oh, ça va là ?
Beaux enfants. Ils vont la sentir. Elle viendra les chercher.
Qui ça ?
La Dame Blanche.
Alors le prologue de la malédiction de la Dame Blanche laisse espérer beaucoup d'un film qui s'inspire là d'une vieille légende mexicaine et qui a un peu de rapport avec notre Dame Blanche à nous, on va dire. Alors il existe plusieurs versions de cette histoire, mais on va s'en tenir vraiment à celle qui nous préoccupe. Au XVIIIe siècle, au Mexique, une femme follement amoureuse découvre que son mari la trompe. Pris d'un accès de rage et de jalousie extrême, elle tue la maîtresse de son homme et noie ses propres enfants, la chair de celui qu'elle a aimé, pensant le rendre fou de rage. Et dévastée par le chagrin, bah, elle se jette aussi par la suite dans un fleuve. Alors depuis, elle erre dans les limbes, on va dire, de la souffrance. Ceux qui entendent ses plaintes n'ont qu'à bien se tenir, un peu tapis dans l'ombre, vêtue d'une robe blanche et d'un voile. Elle s'attaque aux enfants pour remplacer les siens et les noyer à leur tour. Alors la Llorona, comme on la nomme au pays, n'a pas de frontières. Elle devient le spectre terrifiant d'un film situé en 1973 à Los Angeles. Anna, assistante sociale dans la protection de l'enfance, elle vit seule avec ses deux enfants depuis le décès de son mari qui était flic. Elle intervient un soir chez Patricia, soupçonnée de maltraitance. Pensant bien faire, libérer les enfants terrifiés d'une mère atteinte d'un mal incurable, elle va au contraire laisser libre champ à ce fantôme qui est rongé par la haine, qui va s'en prendre donc à sa famille. Impuissante face aux agissements de la Llorona, Anna fait appel à un prêtre, renié par l'église, devenu une sorte de chasseur de spectres.
Mon père, vous pouvez nous aider ?
L'église compte dans ses rangs des spécialistes de ce genre de situation. C'est la Dame Blanche.
Vous croyez qu'elle va venir ?
Elle est déjà là. Le mal que vous affrontez ne connaît pas de limite.
Le premier long métrage de Michael Chavez s'avère, alors durant 45 minutes, d'une efficacité redoutable. Alors nous plongeons dans une atmosphère véritablement anxiogène. Les personnages sont assez bien cernés, ils parviennent même à exister à l'écran, ce qui est plutôt rare dans, on va dire, le cinéma d'horreur contemporain. Linda Cardellini campe une mère de famille exemplaire, au regard teinté de mélancolie, devant se battre pour vivre. Bah, elle est formidable et apporte vraiment une densité peu commune pour une production horrifique lambda. La qualité de la photographie, souvent trop sous-exposée, le soin apporté au montage et au mouvement de caméra au service d'un récit prenant, alors nous captive durant la première partie. Les rares apparitions de la Llorona sont même impressionnantes, notamment la première, hein, celle où elle surgit furtivement devant le fils d'Anna. Alors le dosage entre ce qui doit être montré ou non est très bien géré, le sens de l'ellipse garantit des effets de surprise, même si bon, il y a toujours quelques jumpscares qui gâchent un peu le suspense. Hélas, trois fois hélas, passé l'intensité éprouvante d'une narration ténue mais sans temps mort, le film s'écroule littéralement avec l'arrivée du prêtre une sorte de prêtre qui est rejeté par ses pairs aux méthodes peu orthodoxes. On apprend d'ailleurs au détour d'une séquence faisant référence à Annabelle et à Conjuring que le couple Warren, non nommé directement, ne sont pas libres avant 3 semaines pour enquêter sur les phénomènes qui terrifient Anna et ses enfants. Alors ça, c'est un truc rigolo pour relier en fait un film qui finalement ne pourrait avoir aucun rapport. Alors à la place, on nous refourgue une sorte d'exorcisme mexicain au regard, on va dire, patibulaire, un peu taciturne, entouré de gris-gris. Alors dès lors, le film sombre dans les pires travers du cinéma grand guignol post-exorciste, cumulant les fautes de goût, les effets visuels inutiles et surtout véhiculant alors un discours prêchi-prêcha qui enterre définitivement cette incursion, on va dire, dans une légende pourtant passionnante au départ. Alors toutes les pistes intéressantes sont abandonnées, comme si en cours de route les producteurs, James Wan entre autres, le réalisateur des Conjuring, avaient changé de scénariste et de réalisateur. Alors une grosse déception qui n'empêche pas James Wan de confier la réalisation du prochain Conjuring à ce Michael Chavez en espérant qu'il parvienne à tenir en fait ce projet jusqu'au bout. Alors voilà, bon, la malédiction de la Dame Blanche n'est pas, je dirais, c'est pas un film infâme, hein, au contraire, mais demeure bien, on va dire, l'un des films d'épouvante les plus frustrants vus depuis un moment en raison du potentiel de départ et vraiment des talents gâchés. Alors faute incombant en partie à un scénario, je dirais, suicidaire, hein, qui s'aborde lui-même, jusqu'à un happy end totalement dégoulinant. Alors sur un sujet similaire, hein, puisque je conseille davantage, je l'ai vu dans la foulée, un film mexicain qui s'appelle La Llorona de René Cardona, réalisé en 59, beaucoup plus fidèle à la légende et finalement pas très angoissant, mais beaucoup plus cohérent et tenu.
En tout cas, le titre n'aura pas varié, La Llorona, et alors que là, en version française, donc le film La Malédiction la version de la Dame Blanche.
La version anglaise, c'est bien La Malédiction de La Llorona, en fait. Ouais. Hein.
Donc, on va jouer à un blind test où il faut reconnaître des titres de films où il y a Blanche, et précisément Blanche, à l'intérieur de ce titre, lors de sa distribution en France. Et on commence avec quelque chose, normalement, de très facile.
Sam, dites-moi ce que votre femme avait de si extraordinaire.
C'est-à-dire, vous avez l'antenne combien de temps? Eh bien, c'était un million de toutes petites choses qui, mises bout à bout, faisaient que nous deux, c'était inévitable. Et je le savais. Et je l'ai su au premier contact. J'avais le sentiment d'être chez moi. Mais c'était un chez moi que j'avais jamais connu. Je prenais sa main et je l'aidais à la faire descendre de voiture. Et je le savais. C'était...
magique.
Magique.
Il a fallu attendre la toute fin pour entendre Meg Ryan dans sa version française et Tom Hanks. Et c'était donc...
Bah, Nuit Blanche à Seattle, oui. De Nora Ephron. Oui. 90, 92
93.
Ouais.
Bon, t'es menu.
Nul, hein.
Deuxième extrait.
Mon frère me dit que tu es veuf, ivrogne, et l'un des rares qui ne craignent pas de s'aventurer dans l'obscure forêt.
Ouais.
Quelqu'un que je détenais s'y est réfugié après s'être échappé.
Il est mort.
Elle.
Elle est morte.
Je veux que tu la retrouves. Puis que tu la ramènes.
Je ne retournerai plus dans cette forêt. Je m'y risquerai pas.
Tu seras récompensé. Généreusement.
Et qu'est-ce que j'en ferai de mon or quand les corbeaux me mangeront les yeux?
Chris Hemsworth et Charlize Theron.
Blanche-Neige et le chasseur.
Oui, film de 2012, tout proche de nous. Là, on va s'éloigner de notre époque.
Ces gens-là refusent d'admettre la valeur de la propriété privée et les avantages qui en découlent. Ils n'acceptent pas les principes d'égoïsme que la divine providence a déposés dans la nature humaine. Et monsieur, excusez-nous, cette conversation est confidentielle, et si vous vouliez bien nous laisser...
Messieurs, j'estime le moment venu d'en finir avec ces sous-hommes, de façon que notre race puisse s'acquitter sans plus tarder de la mission qui lui a été confiée, dominer ce continent et y établir la civilisation.
En finir? Mais comment?
Ça n'a pas été trouvé? Alors, donc il y a Blanche, effectivement, dans le titre. Alors, on voit Darry Cole, quand même, dans ce film. On voit Philippe Noiret, Catherine Deneuve, Marcello Mastroianni. Alors, pas dans cet extrait. Hein. C'est un film de 1974, de Marco Ferreri.
Touche pas à la femme blanche, et western, oui.
Voilà. Allez, peut-être quelque chose de plus facile.
Est-ce que c'est vraiment Lily qui vous plaisait à tous les deux ou de vous taper sur le nez pour elle? Ah, c'est facile de lui jeter la pierre à Lily. Elle a peut-être épousé le premier, la reine de Nantes. Mais il valait aussi bien que l'autre, d'après ce que je vois. D'ailleurs, elle n'a pas le choix. Elle a pris celui qui restait, parce que lui, au moins, il est resté.
On peut en parler, de ça.
Non, justement, c'est moi qui en parle. T'as préféré les bateaux, tu les as eus. Mais qu'on me reproche pas d'être resté sur le quai quand on m'y a laissé.
Oh, Lily, écoute.
Il n'y a plus de Lily. Je vais te dire pourquoi ils vont le Galdec. Pendant 20 ans, moi, j'ai dormi à côté d'un homme en pensant à un autre. Et puis, ne te réjouis pas parce que les rouleaux étaient versés, ça aurait été pareil. Ces gens qui m'auraient manqué. Et puis, j'ai pas à en rougir. Parce que d'aussi loin que je me souvienne, je vous ai aimés tous les deux.
Alors, ça a été trouvé. Catherine Deneuve.
La Reine Blanche.
Oui, film de Jean-Loup Hubert de 1991. Dernier extrait, et là, normalement, tout le monde devrait trouver.
J'aimerais que vous ne pensiez plus à vos problèmes, mais que vous vous mettiez au travail.
Pourquoi faire ? On met sans avoir rien demandé, on s'agite et on meurt.
La culture et les diplômes vous aideraient à vous agiter mieux et plus agréablement.
Vous y croyez vraiment ?
Sinon, je ne ferais pas ce métier. Et puis la vie est tellement plus riche que toutes les représentations qu'on peut en avoir. Le désespoir est une forme d'orgueil déguisée.
Mais je ne sais pas si le désespoir, c'est de l'orgueil. En attendant, quand on l'a attrapé, ça fait trop longtemps mal.
Le début de la séduction.
C'est... Noce blanche de oui. Brissot. Et là, c'est 89, c'est sûr.
Oui, c'est bon. Ça.
Enfin, j'ai et un peu perdu, ça fait drôlement mal.
Et nous entendions donc Vanessa Paradis et Bruno Kremer. Ainsi s'achève ce blind test. On en retrouvera un autre la semaine prochaine où on entendra encore Deneuve, qui est souvent dans les blind tests, forcément, parce qu'il est souvent dans le cinéma français. Un nouveau documentaire sur l'agroécologie, il est cette fois-ci signé par Fernando Solanas.
C'est un état d'esprit.
Cinérama. Voilà. Chronique. Invité et nouvelle du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
Fernando Ezequiel Solanas, alias Pino Solanas, est un des grands réalisateurs argentins qui a débuté sa carrière dans les années 70, remportant des prix à Cannes et Venise, deux festivals qui ont souvent sélectionné ses films. Mais sa carrière de cinéaste a pris depuis eh bien, quelques années un tournant, d'autant que le réalisateur, qui a maintenant plus de 80 ans, est sénateur. Et cela, finalement, n'a rien d'étonnant, car Fernando Solanas combine dans son cinéma esthétique et politique. Alors précisons qu'il a été victime quand même d'un attentat en 91. Ses critiques envers la corruption du gouvernement Menem lui ont amené quand même 6 balles dans les jambes. Alors fini les longs métrages de fiction pour Fernando Solanas et bienvenue les documentaires. En 2002, il a entamé une nouvelle série documentaire sur la crise économique dans son pays. Le Grain et Livret est le 8e volet de cette série documentaire autoproduite. Et dans ce dernier volet, le réalisateur argentin traite du modèle agricole argentin et ses conséquences sur l'écologie et la santé. Le modèle agricole, c'est la déforestation de larges contrées, notamment habitées par les tribus amérindiennes pour y planter du soja transgénique la plupart du temps. Les conséquences écologiques sont assez nettes. Comme on le voit dans le documentaire, ces cultures sont traitées par voie aérienne avec des produits agrotoxiques dont les effets sur l'homme sont loin d'être anodins. Voilà pourquoi le titre original est « Voyage dans les villes fumigées ». Ouais, le mot français fumigé, autant dire qu'on l'utilise très peu dans une vie. Pour comprendre le désastre de ce modèle agricole qui en arrive jusqu'à empoisonner la population, et nous, en France, on est avec le glyphosate qu'on cherche dans les urines des Français, et bien Fernando Solanas entreprend un voyage dans 7 provinces argentines. Il y rencontre des victimes de l'agriculture intensive, des ingénieurs agronomes, des spécialistes de la question. Avec eux, il dresse le constat d'une politique désastreuse. Il ne laissera jamais la parole aux grands propriétaires ni aux hommes politiques responsables de cette situation qui, selon lui, ont largement accès aux médias. Vous l'entendrez dans l'interview. Travaillé par une lumière surexposée, un peu dégueulasse quand même, Le Grain et Livret raconte quelque chose qu'on a déjà vu ailleurs, chez Colline Serrault, solution locale pour un désordre global, ou même chez Mélanie Laurent. Et sur le modèle de ces documentaires, il apporte aussi des solutions pour une agriculture plus respectueuse de l'homme et de son environnement. On écoute Fernando Solanas. Alors, il a tenu absolument à parler français. Moi, de toute façon, je ne comprends pas l'espagnol, donc je l'ai laissé faire, mais bon, tendez l'oreille.
Todos comemos los mismos alimentos. Pero quién conoce lo que está comiendo.
Votre film est documentaire est très bien structuré, il est chapitré. Est-ce que vous avez tout élaboré avant de tourner? Ou est-ce qu'au gré des rencontres, vous avez structuré votre film?
Les gens croient que... On a prévu tout avant, on a structuré tout. Et alors, c'est la grosse tête. C'est un chemin continu de 4 pas en avant, 6 en arrière. J'ai monté 400 fois ce film, minimum. On le fait, après on le voit. Il ne marche pas, il n'a pas croissant. Enfin, tous les problèmes de composition d'un film. Ces films, c'est de la contre-information. Qui donne l'information dans notre pays? La télévision et la radio. Et dans notre pays, sont tous captifs du pouvoir économique. Le pouvoir du gouvernement de compliquer à des communicateurs, journalistes très connus, etc., qui ont séduit chaque année, il y a son public. L'Argentine, c'est un des pays en pourcentage plus câblé du monde. L'ensemble des médias a un pouvoir extraordinaire. a remplacer el rol de las anciennes armées coloniales o de dictadures latino-américaines. Aujourd'hui, c'est...
La nécessité pour vous, Fernando Solanas, de faire un documentaire sur, sur la menace écologique, c'était parce que il n'en est pas question dans les grands médias en Argentine, et parce que vous vouliez donner aussi, parce que c'est assez frappant dans votre documentaire, vous donnez la parole à ceux qui sont menacés, aux victimes, et puis aux spécialistes. Mais on n'a pas ceux qu'on accuse, par exemple. On ne les voit pas.
Je ne veux pas perdre l'espace réduit que j'ai dans son film pour lui donner parole à eux qui parlent tous les jours dans tous les médias. C'est ridicule, ça.
Il y a une deuxième chose qui m'a frappé dans votre documentaire, c'est la proximité que vous avez avec vos interlocuteurs. Mais c'est des choses qu'on voit ici, là, en interview. Vous tapez volontiers sur le dos de quelqu'un. C'est aussi le cas dans votre documentaire. On sent que vous êtes très proche de vos interlocuteurs.
C'est difficile faire un film comme ça, si on n'a pas un rapport étroit avec la réalité. C'est difficile. On donne une sorte de confiance. Ils te font des révélations, ils te racontent des choses extraordinaires. À l'Argentine, je suis très connu. Je suis un personnage public.
Está re buenazo el trigo.
C'était le réalisateur argentin Fernando Solanas. Nous l'avons rencontré et il nous a parlé donc de son documentaire Le Grain est livré, en salle depuis le 10 avril. Plus d'un film par an depuis 2005 pour le Philippin Briante Mendoza. Nous allons maintenant parler d'Alpha, The Right to Kill.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Briante Mendoza affiche sans ambiguïté son soutien au président philippin, hein, très contesté, Rodrigo Duterte. Alors pointé un peu partout dans le monde, notamment par les organisations humanitaires, pour ses actions antidémocratiques visant à éradiquer le trafic de drogue par la force. Alors à côté, l'ancien maire de New York, hein, Rudy Giuliani, passerait presque pour un saint homme défenseur de la veuve et de l'opprimé. Alors dans ce contexte sulfureux, la difficulté d'aborder sereinement les nouveaux films du cinéaste pose problème. Contrairement à Clint Eastwood, hein, dont les prises de position pro-Trump agacent mais sont logiques en regard de son attachement au parti républicain depuis le départ, Briante Mendoza apparaît comme un cinéaste officiel du régime. Alors doit-on pour autant boycotter ses films? Quelle position adopter à la vision de ses tripes immersifs au cœur de l'univers interlope de Manille? Comment visionner en toute objectivité des films plébiscités pendant longtemps par la critique? Finalement, hein, il n'y a pas vraiment de réponse à ces questions, hein, à chacun de se faire sa propre idée. Son nouveau long-métrage, Alpha, The Right to Kill, se présente comme un polar urbain en prise directe avec l'actualité sulfureuse du pays. Dans les quartiers les plus chauds de Manille, la lutte anti-drogue musclée bat son plein. Lors d'une descente de l'équipe SWAT afin de coincer l'un des plus gros trafiquants, Abel, un officier de police estimé par ses pairs, s'empare d'un sac contenant de l'argent et de la drogue avec la complicité de son indique, un petit dealer. Ce geste de corruption va déclencher une série d'événements qui ne sera pas sans conséquences, mettant en péril la vie de leurs proches. Alors dès les premiers plans, on reconnaît sans peine le style foudroyant du cinéaste, mélange d'hyper-réalisme et de virtuosité filmique. Alors alternant filmage, caméra à l'épaule, plan-séquence brillamment exécuté et un montage nerveux sur fond d'une bande-son chargée, assez étouffante. Alors cette manière d'asphyxier l'espace ne laisse aucun répit et se passe de discours pour décrire la réalité d'une ville gangrénée par une violence permanente. Alors l'immersion est totale, rappelant à maintes reprises son précédent film, hein, le formidable Marosa. D'autant qu'Alpha souffre par une scène d'action brutale digne du meilleur cinéma américain. Cette concession à un cinéma ouvertement plus commercial va ensuite disparaître au profit d'un drame social centré sur les deux personnages principaux, le jeune inspecteur Espino et le petit délinquant Elijah. Alors Alpha abandonne l'intrigue annoncée, renonce à s'emparer des codes du genre au risque de frustrer le spectateur attendant un thriller tendu mettant face à face trafiquants et flics corrompus. La figure maléfique aussi, le fameux Abel, reste hors champ. Elle n'est au final qu'un symbole politique de la détériorisation sociale d'un pays broyé par la misère. Mendoza s'attache alors de façon plus intimiste à décrire le quotidien du flic et de l'indic. Ils ont chacun une famille, l'un vivant dans des conditions relativement aisées et l'autre dealant régulièrement afin de subvenir aux besoins de son bébé et de sa femme. tel un entomologiste, hein, Mendoza observe, ne juge pas. Il ne signe en aucun cas un film de propagande pro-gouvernementale. Son film est à la fois viscéral, brut, sans concession et surtout sans espoir. Il évite tout parti pris et discours moralisateur. Mais pourtant, son film manque d'empathie. Hein. C'est un peu souvent le défaut de la plupart de ses fictions. Alors, le sort de ses personnages ne nous touchant pas vraiment, Mendoza nous les décrit comme de bons pères de famille au détour de séquences un peu longuettes, dénuées d'émotions, car purement informatives au fond. C'est un peu la limite de cette plongée en apnée dans une métropole qui sent le souffre et la peur et dont les solutions pour éradiquer le mal semblent bien minces. Alors, pour répondre à la problématique initiale, bah oui, on peut juste dire que l'on peut être un citoyen aux prises de position douteuses, là, pour être très gentil, hein, et un vrai cinéaste plus complexe, travaillé par des discours plus nuancés et ambivalents. Et puis peut-être, quand on est artiste, finalement, on se laisse aller à un naturel qui est pas forcément le même que dans la vie de tous les jours.
Mmh, j'imagine. Et puis là, en plus, comme il est vraiment question du trafic de drogue, il aurait pu avoir l'occasion
de... C'est très surprenant parce que moi, j'ai lu des critiques qui disaient que le film était une sorte de charge contre le gouvernement en place. Et là, il faut être très prudent avec ça quand on connaît les positions du cinéaste. Donc, ça reste quand même un film très ambigu là-dessus. Mmh.
Donc Alpha, The Right to Kill, de Briante Mendoza, c'est en salle depuis le 17 avril. C'est aussi le cas de Seul à mon mariage, le mirage d'une vie meilleure à l'ouest pour une jeune roumaine en quête de liberté.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Voilà un film belge de la documentariste Martha Bergman qui a décidé de passer à l'œuvre de fiction pour nous raconter au travers de l'histoire de Pamela, une Rome de Roumanie qui s'en va chercher un mari en Belgique, et bien l'histoire d'une jeune femme qui finit par tracer sa propre route. Pamela vit dans un petit village de Roumanie aux portes de Bucarest, un lieu vite esquissé, perdu dans la blancheur de la campagne enneigée, et où il n'y a pas grand-chose à faire. La jeune femme y élève sa fille aux côtés de sa grand-mère, avec qui eh bien, la relation est plutôt houleuse, même si un amour indéfectible les unit. On perçoit d'emblée la lutte entre un désir de féminité et la responsabilité d'une maternité. N'ayant jamais pu faire des études à son grand regret, Pamela estime que son salut est ailleurs, en dehors de ce village, où elle a un amoureux transi, en dehors de la Roumanie, et plutôt au bras d'un Français, parce qu'il parle bien l'amour, et qu'il participe aux tâches ménagères. C'est ce qu'elle, voilà, c'est ce qu'elle imagine, en fait, du français. Mais on va plutôt dire qu'elle va rencontrer quelqu'un qui parle français, comme Bruno, un flamand qui l'accueille après quelques séances de Skype. Elle quitte sa grand-mère et surtout son enfant pour cet ailleurs en inventant le prétexte d'un travail. Surgit alors deux solitudes, le bienveillant Bruno, la quarantaine, et l'audacieuse Pamela, la vingtaine souriante. Si elle balbutie quelques mots de français, on sent qu'elle veut apprendre et qu'une étincelle de vie la traverse dès qu'elle sent une opportunité d'améliorer sa condition ou d'augmenter son bien-être. Alors pour ce film, au titre énigmatique mais qui a sa résolution à la toute fin, la réalisatrice chasse tout misérabilisme. Si on côtoie la boue et la pauvreté en Roumanie aux côtés des Roms, elle donne une autre image de la communauté au travers de Pamela qui tente de s'arracher à sa condition. Dans ce film, le cadre a son importance. On passe de la maison de la grand-mère au cadre étriqué de l'appartement de Bruno. On quitte la famille pour une autre à partir du moment où la belle famille s'en mêle. Le regard porté par la réalisatrice est plutôt documentaire, fin et riche à la fois, et va aussi du côté de la fable quelques courts moments. Alors on ne reste pas dans un naturalisme pesant et noirci. Même s'il ne se passe pas toujours grand-chose, on suit avec empathie le parcours de cette jeune femme rome à la personnalité complexe, aux aspirations multiples, qui sait être drôle et se montrer intelligente. Son identité rome n'est qu'une facette du personnage qui lui sera bien utile, mais la réalisatrice n'en fait qu'un point de départ. Ces différentes facettes parviendront à changer le grand Bruno qui l'a accueilli et qu'on aurait du mal à qualifier. Celui-ci change au contact de Pamela, laissant de côté ses aspects de vieux garçon, terne et rigide. Mais ce vers quoi tend le film de Martha Bergman, c'est au portrait d'une femme qui va pouvoir enfin se déterminer, même au prix de la douleur, comprendre quelle femme elle veut être après avoir expérimenté les possibles. Seul à mon mariage de Martha Bergman, c'est un premier film de fiction très très encourageant et c'est en salle depuis le 17 avril.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Non, si, je vous assure.
Non, vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
La semaine prochaine, on parlera du dernier documentaire du presque nonagénaire Frédéric Wiseman. On parlera aussi du dernier film d'André Téchiné. Ça donnera l'occasion de jouer un blind test de ce réalisateur.
Et puis d'un tramway pour Jérusalem d'Amos Gitaï et un petit film comédie horrifique. Ne coupez pas.